Il est 13h32 minutes. Loïc Tassé est là pour parler de nouvelles internationales. Bonjour, mon cher Loïc.
Bonjour, Louis.
Et la grande nouvelle internationale, je pense, c'est cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis qui commence véritablement, là.
Aujourd'hui. Remarque, ouais. On en parle depuis des semaines. On en a parlé depuis des semaines.
Mais là, c'est concret, là.
C'est très concret, ce qui est en train d'arriver. C'est 34 milliards de dollars du côté américain depuis minuit ce matin. Donc, minuit une ce matin, si tu veux. Et c'est 25 % qui sont imposés en tarifs sur 818 produits chinois. Et on parle bien entendu de l'acier, de l'aluminium, des panneaux solaires, de machines à laver, de pièces automobiles. Sais-tu quoi? C'est tous des produits où les Chinois sont plus forts que les Américains.
Ouais.
Les panneaux solaires, par exemple, leurs panneaux solaires sont meilleurs, meilleur marché que les panneaux américains. Comme par hasard, on a des tarifs là-dessus. C'est bizarre, hein? Quand même. Les pièces d'auto aussi. Alors,
on sait que ce sont des producteurs d'acier, des producteurs d'aluminium, probablement les premiers au monde, d'ailleurs.
Sur le fond, tout le monde dit à Trump, Monsieur Trump, vous avez raison, les Chinois ont volé de la technologie, ont volé des secrets. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, surtout de vous mettre à dos tous vos alliés. Comment ça se fait que vous partez pas en guerre commerciale avec les Européens, avec les Mexicains, les Canadiens? Il me semble que ce serait plus intelligent de faire ça comme ça. Mais non! Cowboy solitaire, il s'en va tout seul contre les Chinois. Alors, les Chinois répliquent. Les Chinois répliquent et disent, très bien, nous aussi, on va imposer des tarifs, une surtaxe de 25 % sur le porc, le soja, les pièces automobiles. Et en plus, il y a une réaction très nationaliste en ce moment en Chine. Les Chinois sont facilement nationalistes. Ils ont la mèche nationaliste très courte.
Ouais.
Alors, ils commencent à acheter moins de produits américains aussi. Donc, ça va faire mal aux entreprises américaines. Et comme si ce n'était pas assez, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'une grande partie des produits que la Chine exporte sont des produits qui, en fait, sont fabriqués par des entreprises étrangères qui se sont établies en Chine, dont des entreprises américaines. Donc, tu dis,
à quelque part, il fait mal à des entreprises américaines
en même temps. C'est ça, le cowboy solitaire est en train de se tirer dans le pied avec ça. Ou en tout cas, il part tout ça. C'est vraiment pas brillant. Puis, comme si c'était pas assez, Trump en rajoute en disant, écoutez, ça pourrait monter. J'ai demandé à ce qu'on regarde d'autres sanctions sur d'autres produits. Il y a 200 milliards de produits qui pourraient faire l'objet d'une taxe supplémentaire de 10 %. Et puis, Trump évoque même la possibilité d'aller jusqu'à 450 milliards de produits. Puis, la Chine dit, écoutez, si vous faites ça, on va prendre des mesures semblables. C'est tout. Alors, on en est là en ce moment. Le gouvernement chinois dit, écoutez, ça ne nous fera pas très mal. On prévoit que ça va faire mal, ça va nous faire baisser notre croissance, qui est à peu près à quoi? 6,7 cette année. Ça va passer à 6,5. Ce n'est pas la fin du monde. Et par contre, aux États-Unis, encore une fois, on ne sait pas exactement ce que ça va avoir comme impact.
Mais je voyais hier, il y avait des commentaires d'un élu de l'Union européenne qui disait que, parce que là, il y a la guerre entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Union européenne.
Oui.
Donc, tu as à peu près les trois plus grandes puissances économiques mondiales qui sont en guerre avec les États-Unis, l'une envers l'autre, c'est-à-dire l'Union européenne avec les États-Unis.
Pas l'une envers l'autre. Mais l'Europe n'est pas en guerre.
Non, mais avec les États-Unis,
c'est
en fait. Oui, c'est ça.
Et les Chinois sont très futé là-dedans. Tu sais, on en a parlé au début de la semaine, j'ai dit, ils ont offert aux Européens de faire front commun contre les États-Unis. Les Européens disent, écoutez, non, on va pas aller jusque-là, parce que quand même, la Chine, ça reste un pays qui est de plus en plus totalitaire, puis c'est pas un modèle, vraiment. On n'aime pas tellement avoir les Chinois comme amis pour une démocratie.
On veut pas trop se mettre non plus, encore plus à dos, en fait,
les Américains. Ça, tu as bien raison. Mais les Chinois sont en train d'essayer de créer une super zone de libre-échange avec le Japon, la Corée du Sud, et l'Inde, entre autres. Et des États-Unis, je ne sais pas si les États-Unis peuvent faire. C'est loin d'être fait, cette zone de libre-échange-là. Mais tu vois que les Chinois s'organisent et c'est toujours ça le problème de Trump. On dirait qu'il a l'impression... c'est un des problèmes de Trump. C'est qu'on dirait qu'il a l'impression que ses adversaires vont rien faire, vont se laisser punir, sanctionner, sans réagir. Ben non, c'est pas ça qui se produit. Ils réagissent très, très fortement. Ils réagissent à la menace aussi.
Ouais.
Et il y a personne qui comprend très bien où Trump veut en venir. Enfin, qui comprend la logique derrière tout ça. Et Trump a l'impression que les États-Unis en sortiront plus fort. Écoute, peut-être dans certains domaines, oui, mais pour le moment, on se demande vraiment où ça s'est en train de s'en aller, c'est certain.
Et pendant ce temps, les grandes puissances défient les États-Unis sur les exportations de pétrole de l'Iran.
Ben oui, encore une chose. Alors, les États-Unis qui avaient été à l'origine, tu sais, de cet accord de dénucléarisation, de dénucléarisation de l'Iran, démantèlement de ces installations qui servaient à produire de l'armement atomique, eh ben, ils s'en sont retirés, on le sait, sous pression d'Israël, on le sait, et de l'Arabie Saoudite. Alors, ce qui se produit, c'est qu'il y a eu une réunion de 2 heures à Vienne, aujourd'hui, et avec l'Europe, les pays européens, la Russie, la Chine. Et donc, malgré la volonté des États-Unis, ils ont décidé de maintenir l'accord avec l'Iran, de sauver l'accord avec l'Iran. Ils sont très, très bien entendus. Principale chose qu'ils ont, sur laquelle ils sont entendus, ce sont sur les exportations de pétrole et de gaz de l'Iran. L'Iran va pouvoir le faire. Il y a eu un communiqué conjoint avec 11 objectifs conjoints dans toutes sortes de domaines, financiers, dans les transports, les crédits à l'exportation, les investissements en Iran. Ils sont très, très bien entendus et ils se sont promis de se rencontrer à nouveau pour faire progresser des objectifs communs. Donc, les États-Unis sont encore isolés sur ce dossier-là, mais alors complètement isolés.
La politique extérieure de Donald Trump va être sujet d'analyse pendant des années et des années à venir. Les universitaires vont, vont se régaler quand une fois qu'ils seront plus là.
Je pense pas qu'il y ait de logique je pense que sa logique est très fausse. Ça vient de la méconnaissance de ce qui se passe. Et je pense qu'il y a un grain de folie là-dedans.
Ouais.
Un gros grain à part ça.
Ouais. Bon, le sud de l'Iran n'a plus d'eau.
Oui, j'en avais déjà parlé.
Mais ils ont du pétrole.
Oui, ils ont du pétrole, si c'est vrai, ça va leur servir. Mais tu sais, tu viens de vendre mon punch.
Excuse-moi.
Dire, écoute, ils vont désaliniser l'eau de mer parce qu'ils ont du pétrole, ça va leur servir. Parce que c'est dans le sud de l'Iran. Il y a des problèmes dans le nord, mais dans le sud, ils ont des gros problèmes. Il y a des manifestations qui ont eu lieu dans des villes à la frontière avec l'Irak. La chaleur est accablante et l'eau est devenue puante et boueuse. Elle sert à rien du tout, cette eau-là. Tout ça parce qu'en fait, il y a eu un bris d'une conduite qui alimente ces villes, puis ça s'est brisé faute d'entretien, selon le gouverneur de la province du Khuzestan, qui est la province où se trouvent ces villes, parce que aussi l'eau de mer remonte dans la rivière Kharkhek, et parce qu'il y a trop d'usines dans la région qui utilisent beaucoup d'eau, entre autres des usines de production de sucre. Sauf que tu sais, tu as un taux de chômage de 25%, alors tu ne veux pas fermer les usines non plus. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une réduction, figure-toi, du débit des cours d'eau dans la région de 80% en 20 ans. Donc, s'il y a une désertification qui, si tu veux, s'avance, qui s'amplifie dans toute la région.
Pour des raisons climatiques.
C'est des raisons climatiques. Ouais. Et j'en parle parfois, mais c'est ce problème de l'eau au Proche et au Moyen-Orient est extrêmement grave. Et malheureusement, c'est source de conflits. Et en Iran, on voit que les populations sont bien entendu très, très mécontentes.
Là où il y a trop d'eau, cependant, c'est dans la grotte, la fameuse grotte en Thaïlande. Et là, malheureusement, il y a eu un triste événement. Là, il y a un des sauveteurs qui s'est noyé au cours des dernières heures revenant de...
Il y a 140 plongeurs du monde entier qui sont là, tous de grands professionnels. Et c'est un Thaïlandais qui est membre des forces armées thaïlandaises qui est mort sur le chemin du retour par manque d'air. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on a analysé la poche d'air dans laquelle sont les enfants. Il y a 15% d'oxygène. Or, en bas de 16%, on commence à souffrir du manque d'oxygène.
Ouais.
Y a un réel danger qui commence à émerger.
Mais là, évidemment, l'oxygène est remplacé par du CO2 quand on respire.
C'est ça, et parce qu'il y a eu plus de sauveteurs aussi qui sont venus leur tenir compagnie, toutes sortes de travailleurs, puis etc. Mais ça a baissé le niveau d'oxygène. Alors, on leur apporte de l'oxygène, des bonbonnes d'oxygène. Mais tout ça, ça rend le sauvetage plus périlleux encore. On a rajouté de nouvelles pompes.
Ouais.
Mais, tu sais, on a très peur. Écoute, il n'y a pas eu les pluies qu'on attendait pour aujourd'hui. Ça serait plutôt pour dimanche, semble-t-il. C'est une situation vraiment que tout le monde suit. Malheureusement, la mort de ce plongeur a rappelé combien c'était dangereux tout ça. C'est pas du tout un conte de fées, cette histoire.
Non, bien
de
sûr.
Grotte,
on était bien contents de les retrouver, là, bien
évidemment. Peut-être un peu trop enthousiastes.
Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Parce qu'ils sont pas sortis, ils sont pas tirés d'affaire.
Non.
Et Angela Merkel recule encore.
C'est complètement ridicule. Tu sais, on avait parlé des centres de rétention d'immigrants pour les immigrants qui essaient de traverser la frontière allemande, etc. Puis j'avais dit ça n'a aucun bon sens. Comment est-ce qu'ils vont mettre ça sur pied? Puis des accords. Alors finalement, ils viennent viennent d'abandonner tout ça. La coalition de Merkel, finalement, s'est mise d'accord pour faire quoi? Ben, pour accélérer les demandes de réfugiés. On veut que ça soit traité dans les 48 heures. Et les réfugiés qui sont déjà enregistrés ailleurs vont tout simplement être renvoyés dans le pays où ils ont été enregistrés. Ouais. Je suis sûr que les Grecs et les Italiens vont être ravis de cette nouvelle.
Oui, exactement. Et Mike Pompeo...
Ah, je pensais que je te parle des billets, du gars qui vendait des billets pour rentrer au paradis.
Ah, parce ça, c'est drôle.
J'imagine qu'on n'a plus tellement de temps.
Ah, on a le temps de le faire. Allez, on y va.
Donc, écoute, c'est un gars qui... c'est au Zimbabwe que ça se passe. Le pasteur Tito Watts, qui, figure-toi, a dit qu'il avait rencontré Jésus-Christ.
Ah oui. Où ça?
Ah écoute, ça, il le dit pas.
Au centre commercial?
Non, mais écoute, il le dit pas. Probablement dans un endroit paradisiaque. Et alors, figure-toi que dans ce pays où le salaire moyen est de 2 $ par jour, le pasteur Tito Watts vend des billets pour rentrer au paradis. C'est pratique.
Ben oui.
Le seul problème, c'est que ça vaut 500 $.
Ah, OK.
C'est un petit peu cher. Mais tu sais, écoute, c'est le paradis, c'est pour l'éternité.
Exactement.
Alors, 500 $. Et il vendait ça et ça marchait bien, sa business. Sauf qu'il vient d'être arrêté pour crime financier. Et alors, il se plaint. Il dit qu'il est persécuté parce qu'il travaille pour Dieu. Et que, encore une fois, Jésus lui avait assuré que ses billets permettaient d'entrer directement au paradis. Alors, malheureusement, si toi, tu avais l'intention d'acheter un billet, ils sont plus en vente. Mais peut-être que tu peux en trouver un, par contre, d'un revendeur. Ça, ça
peut
exister.
Ah, ben oui.
Mais peut-être que c'est plus cher, puisqu'il n'y a plus de billets à vendre.
Sur StubHub.
Exactement. des places sont limitées, semble-t-il.
Donc, si je comprends bien, lui, il va devoir s'acheter un billet pour sortir de prison maintenant.
Ben là, écoute, je pense qu'il va devoir payer quelques billets pour sortir de prison. Et c'est pas nécessairement les mêmes billets. Mais écoute, tu sais peut-être amasser un petit pécule intéressant. Oui.
Est-ce qu'on sait combien il y en a vendu?
Non, on ne sait pas combien il y en a vendu, mais on sait qu'il y a beaucoup de ce genre d'affaires.
Ouais.
Il y a beaucoup de ce genre de fripouilles qui existent au Zimbabwe. Et je te dirais qu'il y en a ailleurs aussi.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup d'églises un peu partout qui promettent des miracles aux gens, qui leur promettent la santé, un travail, toutes sortes de choses.
Ouais.
Et moyennant évidemment de modestes donations, c'est toujours la même chose
bien sûr.
Qui se produit.
Monsieur Tassé, merci beaucoup.
Je t'en prie. On se voit lundi.
Lundi, bien sûr.
Parfait.
Loïc Tassé, je vous parle de nouvelles internationales.